À la 75e édition du Festival de Locarno, au Kurzal, avec Kaspar Kasic. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dimanche, on a eu la présentation, la première du film Erika Jong, Breaking the Wall. Et on a pu d'ailleurs voir Erika en zoom sur l'écran. C'était magnifique. Cette rencontre, elle s'est faite d'abord grâce à ses livres. Vous avez lu ses livres et vous avez été tellement enthousiasmé que vous avez voulu faire un documentaire sur elle.
Oui, c'est vrai, mais en fait, j'ai découvert Erika Jong quand elle est sortie avec son dernier livre. Donc, je ne connaissais pas du tout le premier livre, mais je connaissais le nom, parce que le nom était partout dans les années 70, 80. Donc, j'ai pensé, c'est la même femme qui a écrit Fear of Flying, il y a 5 ans avant. Donc, tout de suite, j'ai pensé, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux, entre ces deux livres? Qu'est-ce qui se passait avec elles? Quelle était leur vie? Quel autre livre elle a écrit? Donc, ça m'a vraiment intrigué de la contacter, surtout après avoir lu le dernier livre. C'était plein d'humour et tout à fait différent que je me suis imaginé.
Et alors, on voit au début dans le documentaire qu'il y a des scènes où c'est le lockdown, il y a le confinement à cause de la pandémie. Donc tout se faisait par Zoom à ce moment-là.
Le problème, c'était qu'on tournait en 18, en 19 et début 20. Et on voulait terminer le tournage en avril et en mai 2020. Et ce n'était plus possible. En même temps, quand la pandémie commençait, j'avais l'intuition de demander à un caméraman à New York de me faire de tourner des images très, très précises. Donc, on a beaucoup parlé sur le cadre et toutes ces choses. Et il a fait ça, mais je ne savais pas encore pourquoi utiliser ce sujet dans le film. Et tout de suite, après, donc j'ai attendu un an pour continuer le tournage et c'était plus, encore toujours plus possible. Donc, j'ai compris, je ne peux pas faire un dernier tournage. Il faut que je travaille avec ces images de ce caméraman new-yorkais, de New York. Donc, mais qu'est-ce que je fais avec ces images? Donc j'ai dit, on va travailler avec ces images et en même temps, je vais contacter plusieurs fois Erika Jong par Zoom. Donc on fait une sorte de dialogue aussi sur le film, un peu, on va déjà toucher quelques sujets qui sont dans le film, mais aussi en général. Donc c'était un 2 ou 3 Zoom interviews que j'ai utilisées avec ces images de la pandémie.
Okay, bah, Kasic, on comprend qu'elle a connu Miller, évidemment. Oui. Et Miller, tout le monde le connaît. À l'époque, il y avait aussi le Height Report, rapport Height, yes, sur la sexualité pour les hommes, pour les femmes. Et donc, elle est arrivée aussi au bon moment. On la voit dans des interviews, des shows télévisés, où on lui pose des questions qui maintenant paraissent normales. Mais à l'époque, il semble qu'elle est iconoclaste.
Oui, à l'époque, c'était peut-être
avec
normal.
Charlie Rose.
Oui, mais aujourd'hui, c'était très important d'avoir ces archives parce qu'on comprend que la temps était absolument différente.
La mentalité
à ce temps-là. Donc, c'était pour les gens les journalistes, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce que Erika
elle paraissait provocante.
Elle était très provocante, mais en même temps, ils savaient qu'elle répond très éloquemment.
Avec élocution.
avec beaucoup d'éloquence. Donc, ils ont aimé de l'inviter dans les TV shows parce qu'il y avait toujours une sorte de débat et toujours une sorte de confrontation directe.
Mais elle reste très zen, elle reste très posée. Elle ne se laisse pas impressionner par les questions des journalistes.
Absolument. Elle a une conscience de l'effet qu'un discours ou un débat pourrait avoir sur l'audience. Donc elle est très contrôlée, elle est très précise, elle est très, très alerte. Hein. Et ça, c'est à l'âge de 30 ans. Moi, j'aurais pas pu répondre comme elle répondait.
Sans s'emporter, elle se maîtrise.
Oui, elle se maîtrise. Mais elle réfléchit. Ça, c'est une qualité incroyable de cette femme. Dans toutes les situations, aussi pendant le tournage, elle réfléchit. Et ce qu'elle dit, c'est toujours une réflexion. C'est pas seulement des paroles qu'elle a déjà utilisées. Non, elle réfléchit, elle essaie de trouver dans la situation le mot qui est juste, qui exprime ce qu'elle veut.
Gaspard, vous avez étudié beaucoup de choses, dont la philosophie. Donc cette démarche de réfléchir tout le temps, d'avoir le propos, l'argumentation, ça vous a plu ?
Certainement, oui. Oui, moi je pense c'est très important, surtout dans le documentaire, d'avoir toujours une dimension de réflexion. C'est pas seulement montrer les choses, mais c'est la grâce de l'homme qu'il peut réfléchir de nous tous qu'on puisse réfléchir. Donc pour moi c'est très important d'avoir toujours cette dimension dans mes films.
En même temps, elle a un humour incroyable tout le long, toujours un humour, et d'elle-même, parce qu'elle s'est mariée 4 fois, oui. Alors qu'elle est féministe, et elle voulait avoir un schéma classique, sa sœur dans le film le souligne.
Absolument, c'est ce que j'aime chez Erika Jong, c'est la contradiction. Elle n'a pas peur des contradictions.
Des paradoxes.
Des paradoxes. Elle montre que même que comme femme, comme féministe, il y a des moments où elle pense je suis pas du tout féministe. J'aime les hommes, j'aime servir aux hommes, par exemple. Elle dans des situations spécifiques. Donc ça c'est incroyable, c'est dialectique. C'est une femme dialectique. Et ça c'est rare, hein? C'est rare. Et l'humour fait partie de cette dialectique.
Donc le philosophe que vous êtes a trouvé ça vraiment inspirant.
Absolument, absolument. Et j'étais très étonné quand j'ai lu leur livre parce que j'ai pas attendu ça. Parce que du point de vue des critiques, on a dit ouais c'est un peu d'érotisme dans les livres, c'est des sagesses des femmes. Donc j'ai pas vraiment attendu ça qu'elle est capable de connecter des choses dans la réflexion et dans sa vie qui sont pas évidents. Elle trouve toujours des synergies. Par exemple, quand elle parle de leur but du féminisme, elle dit « Gaspard, tu penses toujours je veux détruire quelque chose ». Non, il faut trouver la créativité des femmes, il faut libérer la créativité. Donc le féminisme, c'est un mouvement de la libération de la créativité. Elle ne veut rien détruire, mais elle veut que les femmes, qu'on les prenne au sérieux et qu'ils peuvent attribuer leur créativité à la société.
Et on la voit avec des étudiantes, parce qu'elle soutient d'ailleurs une école. Oui. On la voit aussi avec une jeune femme.
Une école, c'est un institut. D'écrit. Ça fait partie du fameux Barnard College, mais c'est une sorte d'institut avec je pense qu'elle a même fondé ça, parce que l'institut porte son nom. C'est Erika Jong Writing Center. Ça, c'est incroyable.
In New York.
Et elle le soutient. Elle est liée encore avec les jeunes. Et ça, c'est très important. Important pour elle que ce lien qu'elle peut
transmettre.
Donner leur expérience aux jeunes femmes, aux jeunes écrivaines.
Alors, justement, Caspar, vous parlez de liens, de transmission. Oui. Il y avait aussi une transmission, il y a une scène avec une jeune égyptienne qui est sur le départ. Oui. Et là, c'est le mari d'Erika, Ken, qui dit « Nous, on est prêt à soutenir une révolution en Égypte. » Et elle lui a préparé des livres. « Feminism in the History »,« Feminism oui. », enfin, divers bouquins, Miller aussi, d'ailleurs. Et elle soutient pour que ça puisse être, que cette voix des femmes puisse être entendue ailleurs.
Elle comprend, surtout parce que ses livres sont apparus maintenant en Égypte et à Corée. Donc elle comprend ou elle sait qu'il y a d'autres pays où le féminisme est au début, ou n'existe même pas. Et les femmes sont dans une situation très très difficile. Surtout en Égypte. Donc, et c'était par hasard que cette journaliste voulait parler avec Erika. Elle était tout de suite prête. Et nous, on était prêts avec la caméra. Donc, c'était une sorte de rencontre inattendue dans le film. Et là, on voit comment elle communique avec une jeune femme. Et elle essaie de l'inspirer. Dans son sens. Donc elle voulait donner une dizaine de livres à la jeune femme, mais à la fin c'était 3 ou 4 livres, mais ça suffisait.
À cause de l'imitation de l'avion.
Absolument.
Pour revenir à Erika, on la voit aussi avec elle parle de sa fille, ses petits-enfants, oui. Les jumeaux en particulier. Oui. Ouais, elle est très drôle parce qu'ils s'appellent Darwin et Béatrice, je crois,
oui.
Et c'est Beth and Win.
Yes. Oui, elle aime beaucoup leurs petits-enfants, oui. Par contre, la situation avec sa fille est beaucoup plus difficile parce que elle a des sentiments de culpabilité parce qu'elle avait peu de temps pour sa fille. C'est vraiment une caractéristique qu'on trouve chez presque tous les écrivains ou les écrivaines. Quand ils écrivent, ils doivent s'isoler complètement. Ils n'ont plus de temps pour rien. Ils doivent oublier tout ce qui est autour d'eux. Et donc, ce n'était pas facile pour sa fille. Et quand elle est devenue fameuse, ça devenait encore pire parce qu'il y avait tous les journalistes, tout le monde s'intéressait à sa mère. Donc, sa fille était un peu réservée envers le film. Elle était prête de donner une interview, mais seulement avec une interview, ça ne suffisait pas pour l'intégrer dans le film. Mais, par contre, Erika regarde toujours ce que les petits-enfants font. Par exemple, Béatrice, elle lit tous les jours. Et c'est intéressant dans cette scène, c'est presque une scène prototype de la différence entre femmes et hommes, qui commence comme enfant de se différer. Lui, il parle que de son pouvoir et de qu'il veut
casser les murs,
il veut beherrschen,
il veut dominer
le monde, même l'univers. C'est pas dans le film, elle dit même je deviens maître de l'univers. Et elle réfléchit, Béatrice, et c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux, il y a des contradictions, tout ça. Donc ce sont les deux. Ils se débattent tout le temps, partout.
Même s'ils sont jumeaux.
Oui.
Et vous parliez de s'isoler pour écrire, pour Erika Jong, comme tous les écrivains. Et vous avez pu filmer la maison dans le Connecticut.
Oui, parce que bon, ça, c'est une maison qu'elle avait achetée pour se retirer. Hein. Mais c'est une grande maison. Donc, il y a aussi la possibilité de se retirer dans son atelier, et nous qu'on était là, mais c'était très important de voir aussi son atelier où elle a écrit, où il y a tous les bouquins, où il y a des peintures, il y a tout là dedans, aussi un peu chaotique, mais inspirant pour elle. Et là, si on regarde cette scène, c'est intéressant qu'elle oublie complètement qu'on est là. Elle a commencé à écrire un poème sans nous dire un mot. Et on le voit parce que la caméra woman n'était pas prête. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Ah, elle commence à écrire. Et en plus, quand elle a terminé le poème, elle n'a pas communiqué avec nous. Elle commençait à le lire pour elle-même. Donc, ça, c'était une situation. C'est une situation très rare qu'on trouve très rare dans des documentaires.
C'est exceptionnel.
C'est un cadeau. Oui, ça, c'est le mot.
C'est le cadeau.
Oui. Elle fait dans sa manière de se toujours concentrer sur ce qu'elle fait et d'oublier le reste. Elle donne beaucoup de cadeaux.
À un moment donné, dans le film, justement. Elle se commente le fait d'avoir toujours la caméra présente. Par exemple, elle dit I'm wondering my nose is shining. Elle a toujours cette autodérision, non?
Absolument. cette autoréflexion, oui, oui, oui. On a compris qu'elle a cette attitude de déconstruire la situation.
C'est philosophique.
Oui, ça c'est philosophique, hein. Ça c'est Derrida. Elle a commencé à parler avec nous. Et moi j'ai toujours dit, oh, elle va détruire la scène. Non, elle ne détruisait pas. Mais avec le plafond des images du lockdown, j'ai compris. Là aussi, on a la possibilité de déconstruire, de parler du film, parce qu'elle me demande là, est-ce que Darwin is in the movie? Et je réponds, oui, certainement. Alors on parle du film, le film qu'on voit au même moment. Donc c'est devenu un élément, pas permanent, mais... Un élément important dans le film.
Leitmotiv peut-être.
Oui, peut-être une sorte de leitmotiv structurel, voilà. Si on veut. Oui.
Et puis elle a accepté, malgré sa célébrité et puis son âge aussi, elle aurait pu être coquette. Elle a accepté, on la voit faire du yoga, du pilate dans le parc, on la voit avec ses chiens, dans des situations assez intimes.
Oui, elle n'a pas du tout peur de l'intimité. Et c'est même déclaré quand elle parle avec sa sœur sur la famille. Qu'ils étaient souvent nus dans la famille, surtout la mère, devant elle, qu'ils savaient que les parents faisaient de l'amour, ils l'entendaient. Donc pour eux, l'intimité, c'est pas privé. Donc elle est très ouverte. Donc là, j'avais jamais un problème. Le problème, si c'était un problème, c'était qu'elle me demandait « Mais pourquoi de faire un workout, ça n'intéresse personne ?» Et j'ai dit « Non, ça fait partie de ta vie et tu ne sais pas comment j'intègre ça dans le film, avec quel mot, avec quel statement, avec quelle parole on offre. »
Quelle citation.
Oui, citation. Donc ça, elle ne pouvait pas s'imaginer. Mais elle s'en doutait si c'est important pour le film.
Moi, c'est la première fois que je m'entendais parler face-to-face avec le Zoom. Mmh. Et elle a toujours cet humour qui fait partie de sa vie. Mmh. Avec son dernier mari, le quatrième, Ken, on sent qu'il y a une telle complicité, comme il dit, se tenir la main, on n'a pas besoin de faire l'amour. Déjà, être ensemble et rigoler, c'est faire l'amour.
Oui. C'est juste, elle a trouvé finalement un homme qui ne voulait pas la dominer,
voilà.
Qui est prêt de se retirer, qui est prêt d'accepter qu'elle, son caractère, son humour, sa célébrité...
Qui la soutient.
Et oui, il la soutient, il n'y a pas de concurrence. Mais c'est le cas parce que lui, il est heureux dans sa profession.
Il s'occupe de divorce en tant qu'avocat.
Il est avocat de divorce, oui. Et il dit, moi, je donne de nouveaux vies, de nouvelles vies à des gens. Et ça, pour lui, ça suffit pour lui. Il gagne pas mal d'argent, hein, ça c'est clair. Mais donc, il a trouvé son but de travail dans sa vie. Donc, il a vraiment... C'est la base de cette complicité avec Erika, que chacun a trouvé... Ça n'est pas jeté mon...
Son épanouissement.
Son destin.
Son destin, oui. Et ils se s'épanouissent chacun dans leur voie.
C'est ça, exactement.
Ouais. Alors, Gaspard, comme je disais en début d'interview, il y a eu la première du film,
oui.
L'autre jour à la Sala, après il y a eu d'autres projections. Il y avait un bel échange avec le public.
Oui, il y a ça c'est une caractéristique de tous mes films. Il y a toujours des discussions. Parce que je laisse ouvert beaucoup de choses. Et en plus, on sent qu'il y a encore d'autres histoires autour du film. Ça, on le sent. Mm-hmm. Ce ne sont pas des films didactiques qui expliquent tout. Moi, je compte sur un spectateur ou une spectatrice mûre qui fait aussi ses réflexions. Et ça, c'est la raison pour laquelle, à la fin de mes films, il y a toujours, quelquefois, une demi-heure, une heure, presque sans fin.
Et personnellement, cette expérience avec Erika, elle ne pouvait pas être présente, peut-être parce que Ken a le Parkinson.
Oui, elle voulait venir, mais là, oui, elle voulait désespérément venir. Et, elle était décidée, mais elle avait tellement peur que lui, il pourrait mourir ou quelque chose pourrait se passer à New York. Elle ne serait pas là, donc elle... Et c'est un long voyage pour
une dame
de cet âge et seulement pour un moment, une soirée. Mais nous, on compte sur le fait qu'elle pourrait venir quand on sort avec le film en Suisse et en Allemagne.
Alors justement, là, il est passé à Locarno, plusieurs projections. La date de sortie est prévue à quelle date ?
Prévu hiver 22-23. Ça pourrait être fin décembre ou début janvier, on ne sait pas encore. Mais définitivement pas en automne, ça c'est trop tôt.
Et à titre personnel, cette expérience avec Erika, ça a changé des choses en vous, votre point de vue ?
Oui, c'est une des questions qu'on m'a posées hier, après la deuxième projection. Et j'ai dit oui, j'ai compris, j'ai appris que la question fondamentale du féminisme, c'est die Augenhöhe, c'est le rencontre au niveau...
Le regard,
Augenhöhe, sur le même, comment on dit en français, je ne sais
pas.
Sur
le même niveau ?
C'est le niveau, oui. Ça, c'est le problème que nous, comme hommes, on avec les femmes. On les aime. On travaille beaucoup avec les femmes. Mais dans notre cœur, je ne suis pas sûr si on les accepte vraiment sur un niveau égal. On a toujours l'impression de supériorité. Et ça, c'est implémenté par l'histoire. Par des centaines d'années où les hommes ont dominé...
Patriarcal.
Oui, encore toujours domine la société, domine les décisions importantes, tout ça. Donc on porte ça en soi-même. Et ça, j'ai appris. Il faut travailler. Et pour ça, Erika est très importante parce qu'elle... Elle nous fait voir ce problème qui est un problème aussi d'intimité. C'est pas seulement une question de la société avec les règles, c'est dans notre cœur. Et c'est ce qu'on voit avec Ken, que lui, il est capable de l'accepter sur le même niveau.
Gaspard, alors ça, pour rebondir sur ses propos, on la voit avec une jeune chinoise. qui a lu son livre, Fear to Flying. Il a dit, mais qu'est-ce que vous apportez? Elle a dit, maintenant, je suis une Chinoise, Flying Chinese Woman. Donc, c'est ça. En fait, elle permet à des femmes aussi d'oser être elles-mêmes.
C'est exactement leur but, d'encourager les femmes dans tous les sens. C'est la sexualité, mais c'est aussi le mariage. Mais c'est aussi de regarder sa propre vie, de ne pas mentir à soi-même, de ne pas dire « ouais, c'est tout bon, ouais, mon mari il est un peu difficile ». Peut-être un peu comme la sœur. Et j'en suis sûr, la sœur, pour la première fois dans sa vie, elle a exprimé ça quand elle disait elle n'a pas l'égalité de la voix. Elle exprime ça dans le film. Et j'en suis sûr qu'elle a fait ça pour la première fois dans sa vie.
Un dernier mot sur la famille, à propos de la mère, qui en fait a beaucoup souffert, était jalouse ouais. du succès de sa fille.
Oui, elle était très jalouse parce qu'elle était très très douée. Et
elle n'a pas pu suivre son chemin.
Non, elle a résigné. Parce que elle était le meilleur peintre ou la meilleure peintrice dans sa classe, mais on ne voulait pas qu'elle gagne le prix de Rome, qui est un très grand prix, qui est normalement un début d'une carrière exceptionnelle. Non,
parce qu'elle était femme.
Ça, c'était dans les années 30, 40, hein. Il faut s'imaginer ça. Et elle était très frustrée de ça. Donc elle avait finalement trois filles comme enfant, donc elle était occupée tout le temps, mais en même temps une concurrence. Mais elle avait une capacité de fantaisie comme peintrice. Elle voulait que sa fille, ou surtout Erika, utilise sa fantaisie, vit aussi dans la fantaisie. Donc elle a en même temps qu'elle était concurrente de Erika, elle l'a encouragée. Mais c'est resté une relation pas résolue, si on peut dire ça.
Merci pour ce beau film et pour le temps passé ensemble, Caspar. Bon succès pour la sortie du film cet hiver.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci.